Merci Seigneur pour ces chants, ce dernier chant en particulier qui nous rappelle le prix que Jésus a dû payer pour que nous puissions être pardonnés. Je vous invite à ouvrir la Bible dans Matthieu le chapitre 5, un passage qui est bien connu, qui sera juste un verset d'introduction. Matthieu chapitre 5 et le verset 6, il s'agit de ce moment où Jésus se trouve sur la montagne et que les disciples se sont approchés de lui et qu'il a commencé à les enseigner. Il y a plusieurs paroles qui sont données, mais c'est au verset 6, celle qui nous intéresse ce soir. Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Amen. Est-ce que vous avez faim et soif de justice? Peut-être quelqu'un va dire ce soir, « Oui, moi j'ai soif que Dieu fasse justice. S'il y avait un Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'injustices dans ce monde ?» Mais ce n'est pas ça dont il est question ce soir. Le conseil que Dieu veut nous apporter, c'est qu'avant de regarder à tous les cas d'injustice, et c'est vrai qu'il y en a, si on regarde notre monde, on voit qu'il y a beaucoup d'injustice. Avant de regarder à l'extérieur pour voir s'il y a de l'injustice, la Bible, Dieu nous demande de regarder d'abord dans notre cœur et de réfléchir, est-ce que dans notre cœur déjà, il n'y a pas des injustices? Est-ce que nous sommes parfaitement justes aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il n'y a pas besoin de regarder longtemps pour se dire que il y a du travail déjà au-dedans de notre cœur. Et je pensais à ce verset, alors que je pensais aussi en même temps au baptême qui a eu lieu dimanche après-midi, notre frère Gaël qui s'est fait baptiser. Je pensais à ces moments où on avait partagé les instructions, quand on se retrouve à côté, quand, vous savez, on donne des enseignements, parce qu'il y a beaucoup de clichés qui sont faits par rapport au baptême. Et j'en ai noté quelques-uns, mais par exemple, tout ce que le baptême n'est pas. Le baptême, ce n'est pas le signe de la perfection. Les gens qui croient qu'il faut, pour se faire baptiser, il faut être parfait. Et le jour où tu es parfait, tu te fais baptiser. Mais si c'était ça, eh bien, je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de baptême tous les jours. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Le baptême, est-ce que c'est la garantie de la bénédiction? Je me fais baptiser, donc Dieu va me bénir, c'est obligé. Mais non, mais si je me fais baptiser, mais qu'après je marche dans la désobéissance, je ne vais pas être béni de la part de Dieu. Le baptême, est-ce que je vais me faire baptiser parce que je veux remercier Dieu? Non plus. Ce n'est pas parce que Dieu m'a exaucé que je vais me faire baptiser. Le baptême, c'est un engagement. Et un des grands clichés que l'on a, c'est de croire que parce que je me fais baptiser, c'est au moment où je plonge dans l'eau que je deviens pur, que mon péché est enlevé, que je suis justifié. Ah, j'ai soif de justice, alors je vais me faire baptiser. Mais non, ça n'a rien à voir. Le baptême, je l'ai dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience. D'ailleurs, c'est ce que dit la parole. Mais c'est aussi le symbole de cette expérience que Dieu est venu me justifier, à justifier ma vie. Justifier, ça veut dire rendre juste. Ça veut dire disculper, ça veut dire innocenter, ça veut dire ne plus être considéré comme coupable. Et si je me fais baptiser, c'est parce que dans mon cœur, il y a déjà eu ma vie tout entière qui a été plongée dans la justice de Dieu. Et tout le péché qui était collé à ma vie, ça a été nettoyé. Mais ça, c'est quelque chose de spirituel. C'est pas physique comme le baptême. Et avant de pouvoir me faire baptiser, il faut que je vive cette expérience. J'aime bien donner des définitions aux mots, justifier, mais j'aime bien aussi donner des illustrations qui expliquent la définition du mot. Il y avait un homme qui était en Angleterre qui avait acheté une Rolls-Royce à l'époque, donc ça date un petit peu, hein, la Rolls-Royce, mais à l'époque c'était la voiture super. Et alors qu'il était en Angleterre, il a mis sa voiture sur un bateau, il a choisi d'aller passer ses vacances en France et sur le continent, donc il a pris sa voiture un peu partout, s'arrêter, prendre des photos, etc. Et à un moment donné, quelque chose qui arrive, voiture tombe en panne, une Rolls-Royce qui tombe en panne. Et le gars qui est dépité, il ne sait pas quoi faire, il appelle l'entreprise de Rolls-Royce, il leur dit « voilà, j'ai un problème, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, ma voiture est tombée en panne ». Et les gars de Rolls-Royce, ils dépêchent un mécano, ils l'envoient par avion, illico presto, ils lui payent tous les frais, etc. Le gars, il se passe une heure, deux heures sur la voiture, il répare la mécanique, et la voiture fonctionne, il repart chez lui, le gars, il continue ses vacances. Mais pendant toutes ses vacances, il avait une pensée qui lui trottait l'esprit, c'est combien ça va me coûter cette histoire? Combien ça va me coûter? Parce que je pense qu'ils ne vont pas le faire gratos. Et puis quand il rentre en Angleterre, il envoie une lettre, oui, c'est ça. Il envoie une lettre à Rolls-Royce, il leur demande, alors voilà, j'ai eu un problème il y a tant de temps, et vous avez envoyé un mécano, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois régler? Et il a reçu une autre lettre. « Cher monsieur, il n'y a aucune trace nulle part dans nos fichiers que quelque chose ne va pas avec une Rolls-Royce. » Parce qu'ils avaient tellement envie de propager cette réputation de perfection dans l'entreprise que le moment où il y a eu la difficulté, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour la régler, mais ils ont supprimé aussi toutes les traces. Et c'est un petit peu, alors c'est pas tout à fait, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe avec Dieu. Les Rolls-Royce de nos vies, hein, il y en a qui peuvent dire, ma vie c'est une Rolls-Royce, mais quand on réalise qu'on est des créatures si merveilleuses, alors il n'y a aucun orgueil là-dedans, hein, c'est ce que dit la parole. Je ne m'appuie que sur ce que dit la Bible. Mais quand on réalise le fonctionnement de notre corps humain, toutes les choses que Dieu nous permet de bénéficier sur cette terre, on peut dire que oui, c'est comme si on était des Rolls-Royce, et que Dieu sait que le péché est là comme en voyant des pannes dans nos vies, et Dieu se plaît à guérir tout cela, Dieu se plaît à réparer tout cela, Dieu se plaît surtout à oublier notre péché, à oublier toutes les fautes, toutes les offenses que nous avons faites, toutes les rébellions de notre cœur, Dieu se plaît à les mettre ensemble et à les jeter au fond de la mer. C'est ça la justification. Quand on accepte de goûter à la justice de Dieu, quand on a faim et soif de justice, quand on a compris que ça ne vient pas de notre propre fond, mais que ça vient que de Dieu, et quand on dit « Seigneur, prends tout mon péché et donne-moi ta justice en échange », c'est ça, être justifié. Mais le danger, c'est justement de ne pas vouloir ces choses. Le danger, c'est de ne pas vouloir être juste. Regardez ce texte avec moi. 1 Corinthiens 6, verset 9, qui l'explique tellement bien. 1 Corinthiens 6, verset 9, il est dit, c'est exprimé clairement, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Comme quoi c'est important d'être juste. Et peut-être que dans notre monde d'aujourd'hui, on a besoin même de préciser qu'est-ce que ça veut dire être injuste. Alors, c'est expliqué, parce que nous, on se fait des fois des idées. Voilà ce que dit la parole. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques ou les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. C'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Je crois qu'on pourrait tous dire, mais c'est là ce que nous étions nous aussi. Nous étions dans ce péché-là, et de par le fait que nous étions dans ce péché, un de ces péchés peut-être, ou plusieurs, nous étions privés de ce royaume de Dieu. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés par le Seigneur Jésus. Et face à la justice de Dieu, on peut voir trois attitudes différentes. Il y en a une qu'on a déjà partagée dans ce premier verset. Face à la justice de Dieu, est-ce que j'ai soif et j'ai faim de cette justice? Ou alors est-ce que je me justifie? Souvent c'est soit l'un soit l'autre. J'ai faim et j'ai soif de la justice de Dieu. Je reconnais mon besoin, je reconnais que par moi-même ça ne va pas marcher. Ou alors je justifie. Oui, ça ne marche pas, mais voilà. Si Dieu justement était juste, si c'était vrai toutes ces choses, alors il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Et on commence à trouver toutes sortes d'excuses qui ne nous touchent pas, nous, qui nous amènent à nous cacher, qui nous amènent à ne pas prendre les choses en main dans notre vie et à dire « Oui Seigneur, c'est vrai que moi, dans mon cœur, j'ai besoin de goûter à cette justice. » Regardez dans Luc chapitre 18, une autre attitude qui vient trancher, s'opposer justement à ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de la justice de Dieu. Non, nous croyons qu'un jour, Dieu fera parfaitement justice. Peut-être pour certains, Dieu va faire justice très bientôt. Peut-être pour certains, ça va prendre plus de temps. Mais en tout cas, c'est sûr qu'un jour, Dieu fera parfaitement justice quand Jésus va revenir. Mais voilà, tout le monde n'a pas envie d'arriver dans cette réalité-là. Dans Luc chapitre 16, verset 15, au verset 14, on peut lire, « Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela. » Tout cela, ça concerne que les, il y en a qui peuvent pas servir deux maîtres, soit Dieu, soit l'argent. Faut qu'ils choisissent à un moment donné. Ils écoutent tout cela et ils se moquaient de lui. Voilà ce que ça procurait, cette parole dans leur cœur. Jésus leur dit, vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Vous cherchez à paraître juste. Ce sont les personnes qui savent qu'elles ne sont pas justes à l'intérieur, mais qui veulent, pour une raison ou pour une autre, pour un motif ou pour un autre, qui veulent que les autres pensent qu'ils le sont. Ce sont ceux qui sont dans l'hypocrisie. Ceux qui s'attachent qu'à l'apparence et combien c'est bon quand on est dans cet état d'esprit-là de se souvenir que pour Dieu, rien n'est caché. Dieu connaît parfaitement nos cœurs. Et je ne sais pas ce soir si vous êtes juste pour que les autres vous disent « bravo, tu es juste » ou si vous soupirez après cette justice qui transparaît dans votre vie parce qu'elle est déjà au fond de votre cœur. Regardez juste après dans Luc chapitre 18. Il y a cette petite histoire qu'on connaît bien. Au verset 9, cette parabole qui nous parle de certaines personnes. Par contre, ces personnes-là, elles se persuadent qu'elles sont justes. Elles sont plus dans la connaissance qu'elles ne sont pas justes. Mais elles se persuadent, elles sont persuadées qu'elles sont justes. Luc chapitre 18, verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Et l'autre publicain. Ça veut dire l'un était un chef religieux et l'autre était un fonctionnaire. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères. » Ça nous fait penser à ce qu'on vient de lire. « Ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le publicain se tenant à distance. N'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison. Comment il est descendu ? Justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Quelle différence entre quelqu'un qui se persuade qu'il est juste. Ce pharisien, si on lui avait posé la question, « Monsieur, est-ce que vous pensez que vous êtes juste devant Dieu ?» Il aurait dit « Mais oui !» Et il aurait cité cette prière. « Voilà, regardez ce que je fais. Je donne l'aumône, je fais ceci, je fais cela. Regardez toutes les œuvres que je fais. » Et le publicain, on lui aurait posé la même question. « Est-ce que tu es juste devant Dieu ?» Et il aurait dit pareil. « Non, moi je suis un pécheur. » Mais regardez la différence. Et la différence est incroyable, c'est qu'il y en a un sur les deux ont fait une prière, les deux étaient dans la maison de Dieu, les deux sont venus à la réunion le jeudi soir peut-être, je ne sais pas à quel moment c'était, mais il y en a un sur deux qui est sorti justifié. Et l'autre est sorti, il n'y a rien qui s'est passé. Et je ne sais pas comment vous êtes venus ce soir, dans quel état d'esprit vous êtes venus, mais j'espère que vous allez pouvoir sortir de ce lieu avec votre cœur rassasié de la justice divine, avec dans votre âme cette certitude que Dieu vous aura justifié, Dieu vous aura lavé de tout ce qui vous retient en arrière, Dieu vous aura enlevé toutes ces péchés qui sont là dans votre vie, qui vous bloquent, qui sont des obstacles. Vous pourrez faire cette même prière, Seigneur, sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. Ce péché m'empêche d'être en paix, mais Seigneur, si je te le laisse, tu vas me donner la paix en échange. Alors, je ne voudrais pas m'attarder sur ça plus longtemps, mais voir trois façons dont la justice de Dieu s'accomplit dans notre vie. Trois façons dont Dieu nous justifie. Romains chapitre 3, verset 23, c'est un texte qu'on connaît bien. Il nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce ». Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. La grâce, c'est ce moment de Dieu qui nous permet aujourd'hui d'accéder à la justification. Parce que si Dieu n'avait pas usé de grâce envers nous, personne ce soir ne pourrait être justifié. Il faut être clair. La première chose que l'on comprend quand on réfléchit à la grâce, c'est qu'on comprend qu'on est tous pécheurs. La grâce, ça veut dire la faveur imméritée. Mais si c'est immérité, ça veut dire qu'on ne le mérite pas. C'est évident ce que je dis. Mais combien on a besoin de réfléchir? Si je ne le mérite pas, ça veut dire que dans ma vie, il y a quelque chose qui m'empêche de le mériter. Ça me fait penser à un enfant qui joue dans une flaque de boue et qui ne peut plus rentrer dans la maison. Quand la maman le voit, elle n'a qu'une envie, c'est qu'avant qu'il puisse rentrer dans la maison, il puisse enlever tous les habits et passer au jet d'eau, l'enfant qui est recouvert de boue. Et des fois, nous, on est un peu comme cet enfant. On voudrait rentrer dans la présence de Dieu, mais alors qu'on a encore de la boue sur nous, et alors que Dieu nous demande d'être lavé, d'être justifié par sa présence, par l'attouchement divin dans notre vie. Et des fois, on est pire que cet enfant, c'est-à-dire que on essaye de camoufler la boue en mettant des vêtements par-dessus. Vous comprenez l'image? On essaie de faire des choses. Ah, c'est vrai que j'ai menti à telle personne, mais pour me rattraper, ben, je vais aller à l'église un peu plus, je vais lire un peu plus ma Bible, je vais prier le Seigneur un peu plus dans ma chambre. Mais est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que la maman qui voit son fiston recouvert, qui a des gants, c'est en plein été, mais il a le bonnet, les gants, tout pour camoufler qu'il a de la boue, est-ce que sa maman va pas se douter de quelque chose? Et puis là, c'est une maman, mais Dieu, qui voit jusqu'au cœur. Est-ce que lui, ça va pas, il va pas savoir ce qu'on fait? Nous, on voudrait camoufler, alors qu'il vaut mieux faire comme ce publicain. Reconnaître. Il y a un moment divin qui est permis par Dieu, par sa grâce, le moment où on reconnaît notre péché, où on reconnaît qu'on a absolument besoin d'être lavé, que nos cœurs souillés par le péché ont besoin d'être rendus justes. Paul a été justifié par la grâce. Lui qui était un blasphémateur, lui qui était un persécuteur, il a un CV incroyable. C'était un homme violent. Il a été touché par la grâce de Dieu. Et ça a transformé sa vie. Il a saisi le moment de Dieu. Tite, regardez avec moi Tite. Tite chapitre 3. Juste après Timothée. Timothée, Tite, et juste avant Philémon. Il nous est dit ce passage. Tite chapitre 3 qui nous montre que Dieu a préservé un moment où nous pouvons être bénis. Verset 4, 3-4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, c'est bien précisé, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Par la grâce de Dieu, par cette grâce abondante qui coule de l'œuvre de Jésus à la croix, nous avons ce que nous ne méritons pas, c'est-à-dire la justification. Nous pouvons devenir justes aux yeux de Dieu. Et le résultat qui est donné dans ce passage, c'est que si les injustes n'héritent pas du royaume de Dieu, ceux qui sont justifiés par Jésus-Christ, ils héritent de la vie éternelle. Je réfléchissais à ces choses et vous connaissez Bill Gates, une des plus grandes fortunes du monde. Est-ce que ça vous intéresserait d'être héritier de Bill Gates? D'être inscrit sur une... même si c'était parmi 20 personnes, mais c'est pas grave, on se partagera, on s'arrangera. Ça intéresserait quelqu'un, je pense, ce soir. Et imaginez maintenant que vous soyez héritier de celui qui a toute la fortune de Bill Gates dans sa main et qui a même la vie de Bill Gates dans sa main. Est-ce que c'est possible? Mais oui, parce que c'est Dieu qui est dans cette place-là. Dieu, il a tous les trésors de la terre. L'or et l'argent sont à lui. Dieu, il est celui qui a même les vies, chacune de nos vies entre ses mains. Et nous pouvons devenir héritiers, non pas de Bill Gates, mais héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu, héritiers de la vie éternelle, héritiers de toutes les grâces et les bénédictions que Dieu veut nous accorder. Comment est-ce qu'on peut vivre cette réalité? Ben, c'est aujourd'hui, il faut saisir le moment de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce, nous dit la parole. Aujourd'hui, c'est le moment où je peux saisir la grâce de Dieu. Regardez toujours dans Romains, le chapitre 5 et le verset 9, qui nous donne un autre aspect de cette vérité. Romains chapitre 5, verset 9. On peut lire à partir du verset 6 pour voir ce contexte-là. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par quoi? Par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes justifiés par la grâce, mais nous sommes aussi justifiés par son sang. Le seul moyen pour que le péché puisse être effacé dans le cœur d'un homme, c'est pas de réciter des prières, c'est pas d'aller à l'église, c'est pas d'écouter des prédications même, c'est de croire que Jésus a versé son sang et que ce sang qui a coulé, c'était à cause de mon péché. Et si je crois, si j'ai la foi dans ces choses, si j'ai cette conviction que ce sang qui a coulé, c'était pour moi, alors je peux être justifié. Voilà ce que nous dit la parole. Ça n'a rien à voir avec une cérémonie où on aspergerait du sang. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y avait des moments comme ça. Et pour nous, en Occident, on a du mal à comprendre ces choses. Mais justement, on n'a pas besoin de les comprendre parce que c'est spirituel. On peut comprendre, par contre, quand quelqu'un donne sa vie à notre place. On peut comprendre que la colère de Dieu demeurait sur nous à cause du péché. Mais parce que le sang de Jésus a coulé, la colère de Dieu se détourne. On a un chant qui dit un petit peu ces choses-là, que les foudres de la colère divine sont tombées sur Jésus-Christ. Et on voit bien l'image du paratonnerre qui, au moment où il y a la foudre, c'est lui qui prend toute la foudre pour éviter que la maison se fasse électrocuter et qu'il y ait des problèmes dans les circuits. Et Jésus-Christ a été ce paratonnerre qui a pris sur lui toute la colère de Dieu pour nous éviter à nous d'être dans cette colère. Non seulement pour nous faire échapper à la colère, mais en plus pour que nous puissions vivre jour après jour dans la justice de Dieu, ce que nous ne pouvons pas faire. Est-ce que ça vous intéresse que dans votre vie, il y ait la marque de la justice divine, c'est-à-dire que vous puissiez vous-même être capable de marcher dans la justice? Mais est-ce que c'est possible pour n'importe qui? C'est possible pour celui qui a été rendu juste par Jésus-Christ. C'est possible pour celui qui a accepté de faire comme ce publicain. « Seigneur, sois apaisé envers moi. » Sois apaisé envers moi, je suis un pécheur, je reconnais que j'ai péché. Combien ça serait dommage d'accéder au fleuve de justice et de ne pas bénéficier de cette réalité. Combien ça serait dommage de savoir que Dieu a prévu qu'il y ait un fleuve de justice et de ne pas nous y plonger. Combien ça serait dommage de savoir que nous pouvons aller dans la présence de Dieu mais de ne pas vivre cette réalité parce que nous refusons de demander pardon pour notre péché. Pensez à l'image du plongeur qui va sous l'eau. Plongeur qui va sous l'eau, un homme normalement constitué, il ne peut pas rester trop longtemps sous l'eau. Il y en a qui arrivent à battre des records, mais à un moment donné, il faut qu'il revienne respirer à la surface. Et le plongeur, il peut rester sous l'eau, mais parce qu'il a une bonbonne d'oxygène, il a une autre façon de respirer. Et nous pouvons accéder à la présence de Dieu, à la sainteté de Dieu, à la justice de Dieu, seulement si nous passons par Jésus-Christ et à son sacrifice. Si nous essayons de faire un autre moyen, le résultat, c'est qu'on va se noyer. Et la présence de Dieu, si elle est bonne pour celui qui passe par Jésus, elle est dangereuse pour celui qui le refuse. Parce que Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu juste, et il ne peut pas tolérer le péché. Troisième chose, il faut qu'il y ait un mouvement dans notre cœur. Romains 5, toujours verset 1er. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. » Nous sommes justifiés par la grâce, nous sommes justifiés par le sang, mais nous sommes justifiés par la foi. Il faut que toutes les grâces que Dieu a préparées, ce fleuve de justice et cette bénédiction que Dieu veut mettre sur notre vie, il faut que nous puissions y entrer, et ça demande une implication de notre part, ça nous demande à nous de faire un mouvement de notre cœur. C'est ça la foi. La foi, c'est qu'on se jette à l'eau à un moment donné. La foi, c'est qu'on a compris qu'on est injuste, on a compris que sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais à un moment donné, on choisit, on se décide. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux marcher dans tes pas. Seigneur, je veux marcher sur le chemin de justice. Il y a un verset dans Michée, je crois, Michée 6:8, qui nous dit, « On t'a dit, ô homme, ce qui est bien. » Ça vous intéresse de savoir ce qui est bien, ce que Dieu dit qui est bien? On t'a dit, ô homme, ce qui est bien, c'est que tu pratiques la justice, c'est que tu aimes la miséricorde, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est tellement simple. Mais rien qu'un verset comme ça, ça peut résumer tout ce que Dieu nous demande. Marcher humblement avec son Dieu. Aimer la miséricorde, aimer la grâce de aimer de faire grâce à ceux à qui on peut faire grâce, aimer demander pardon à qui on peut demander pardon ou accorder le pardon, etc. Et chercher la paix entre nous, ce qu'on partageait juste avant. Voilà, c'est ça la grâce de Dieu, c'est ça aimer la miséricorde. Quand on voit les pharisiens, la façon dont ils avaient de se comporter, le pharisien qui priait et qui n'a pas été justifié, justement il priait mais il ne faisait aucun cas des autres. Si nous voulons être justifiés, nous avons besoin de dire « Seigneur, je reconnais mon besoin, je reconnais aussi que je ne veux pas recevoir la justice, je ne veux pas recevoir la bénédiction, et puis la garder pour moi, je veux après que ça coule de ma vie. » Ce soir, est-ce que vous avez faim et soif de justice? Le résultat d'être justifié par la foi, il est donné dans ce verset. Nous avons la paix avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a de comparable dans ce monde à la paix avec Dieu? On peut avoir la paix avec les êtres humains, encore que c'est difficile d'avoir la paix avec tous les êtres humains. La Bible dit justement, autant que cela dépende de vous. Mais avoir la paix avec Dieu, par contre, c'est possible. Et ça peut être quelque chose de continuel, et ça peut être quelque chose d'infini. Et je sais que dans l'éternité, nous serons en paix avec le Seigneur dans une félicité incroyable. Mais déjà, ici-bas, sur cette terre, nous pouvons être en paix avec Dieu. Ça veut dire que même si le monde autour de nous s'écroule, même si tout va de mal en pis, tout s'empire, je peux rester dans la paix dans mon cœur. Je peux rester dans cette confiance avec le Seigneur. Un dernier verset se trouve dans Amos et qui nous encourage justement à ne pas garder cette justice. C'est merveilleux quand on plonge dans le fleuve de justice, quand nous qui sommes pécheurs, on est lavés, libérés du péché, on est remplis de la justice de Dieu, on est capable de faire certaines choses. Mais quand on garde toutes ces bénédictions pour nous, quel drame. Amos nous dit justement, Amos 5, verset 24, nous dit ce qu'il faut faire véritablement. Amos 5, 24, alors que c'était une nation qui était en train de faire beaucoup de cantiques à l'église, il y avait une grande ferveur qui était là, mais voilà ce que Dieu demandait, lui, surtout. Que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Est-ce que, frères et sœurs, ce soir, est-ce que vous voulez vivre ces réalités? Que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Un torrent qui va couler avec, pour l'éternité, avec puissance, avec force, qui va vous emmener plus loin, qui va vous donner de faire des choses que jamais vous auriez pu faire tout seul. Un torrent de justice qui vient de la part de Dieu, déversé dans votre cœur, parce que vous avez placé votre foi en lui, parce que vous avez saisi la grâce de Dieu, parce que vous avez cru dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour vous. Toutes ces choses se passent et j'ouvre mon cœur après pour les autres. Et je dis, Seigneur, oui, déverse ta justice, déverse ta grâce autour de moi. Je veux recevoir, je veux être justifié, je veux, Seigneur, être béni. C'est pas orgueilleux de demander ça, c'est bien, il faut le faire. Mais je veux, Seigneur, le recevoir pour après que tu puisses te servir de moi, pour bénir celui qui est autour de moi. On va s'incliner. Est-ce que ce soir nous avons faim et soif de justice? Est-ce qu'il y a un moment donné dans la vie chrétienne où on peut s'arrêter même d'avoir faim et soif de justice? Est-ce que ce message, il n'est que pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ou est-ce qu'il n'est pas pour chacun? Quelqu'un ce soir qui reconnaît, qui n'a plus cette faim, ce désir profond de la justice de Dieu. Ou alors quelqu'un qui l'a, cette soif de justice, mais qui la désire que pour lui, qui ne veut pas l'utiliser pour les autres. La parole est claire, elle nous dit que cette justice soit comme un torrent qui coule de nos vies. Quelle grâce! Quelle grâce d'avoir un moment dans notre vie où on peut être justifié. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais Dieu a envoyé son Fils Jésus. On chante ce chant qui nous dit « De la croix, la grâce coule ». Et il y a un moment, pour quelqu'un peut-être, ce moment c'est aujourd'hui, où la grâce de Dieu peut justifier votre vie, où le sang de Jésus qui a coulé il y a de nombreuses années, il est encore efficace aujourd'hui pour vous purifier de tout péché. Simplement faites le mouvement intérieur de la foi et soyez justifiés, soyez blanchis, soyez innocentés Quand Dieu nous justifie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péché, ça veut dire que Dieu, il oublie totalement notre péché. Que Dieu, il ne tient plus compte de notre péché et de ses conséquences. La colère est éloignée de nous. Et alors que la colère va s'abattre sur ce monde qui refuse Dieu, Dieu va quand même prendre soin de chacun de ses enfants qui vont accepter sa grâce. Ce soir, le fleuve de justice de Dieu est en train de couler. Et il coulera encore avec force, avec puissance, jusqu'à ce que la porte de la grâce se ferme. Est-ce que vous allez saisir ce moment où vous pouvez être justifié? Ce soir, c'est peut-être pour vous votre moment. Oh, c'est tellement simple. Il suffit de croire. Il suffit de croire que Jésus est venu et que Jésus est venu pour vous en particulier. Il suffit de croire que quel que soit le péché que vous avez commis, quelles que soient les fautes que vous avez faites par le passé, tout cela peut disparaître en un instant par la puissance de la grâce de Dieu. Dans ces instants, est-ce que vous avez faim et soif de la justice de Dieu? Je vais prier le Seigneur. Merci Éternel. Merci, oui, pour cette grâce infinie. Merci pour la richesse de ta grâce. Merci parce que ce que tu as fait pour l'apôtre Paul, qui était persécuteur, qui était un homme violent, qui était plein de haine et plein d'envie de meurtre, Seigneur. Par ta grâce, tu l'as transformé. Ce soir, tu veux transformer une vie peut-être. Ce soir, tu veux intervenir en faveur de quelqu'un qui n'arrive pas à se débarrasser d'un péché qui est là, qui l'empêche de marcher, qui l'empêche d'avancer, qui le retient en arrière. Seigneur, parce que tu as versé ton sang, parce que tu as donné ta vie, Seigneur, tu nous permets maintenant d'être justifiés. Oh Seigneur, oui. Combien nous voulons faire la même prière que ce publicain. Sois apaisé envers nous, qui ne sommes que des pécheurs. Combien nous ne voulons pas sortir de ce lieu sans avoir goûté quelque chose de ta vie, sans avoir goûté quelque chose de ta grâce, sans avoir goûté quelque chose de ta justice, Seigneur, mais au contraire en être totalement rassasiés, rafraîchis, et que nos vies, Seigneur, puissent non seulement en être remplies, mais débordées de cette justice que tu vas répandre dans ces instants, Seigneur. Merci, merci de le faire. Nous te bénissons. Parce que nous croyons, oui, que ce n'est pas les belles prières avec des jolis mots que tu entends, Seigneur, mais c'est la prière du cœur, la prière sincère, la prière qui est faite avec foi que tu exauces et que tu écoutes. Merci, Seigneur, d'entendre les prières qui sont là, dites à mi-voix ou dans le cœur, Seigneur. Merci d'entendre ces prières et de les exaucer et de justifier tous ceux qui placent leur foi en toi ce soir. Amen.